Radio Balise, Radio Bridgewened, Celte Armorique, avec la collaboration du collectif Celtique Radio Média, rendent hommage au premier directeur du Festival Interceltique de Lorient, Jean-Pierre Pichard, qui nous a quittés. Voici une rediffusion de l'émission du 11 août 2020, qui s'appelle Le Fil Invisible, avec comme invité évidemment notre bon JPP qui nous manque déjà, mais Jean-Pierre Pichard est éternel.
Le Fil Invisible
sur Radio Balise
et Radio Bridgewened.
Et oui, voilà, deuxième numéro du Fil Invisible, toujours en direct, donc de ce mardi 11 août, sans Festival Interceltique, mais voilà, le Fil Invisible, toujours on air. On profite de cette absence de 50e édition pour faire le tour, faire appel aussi à la mémoire de ce festival-là, pépite musicale, vieilles archives. Mon cher Coyote, bonjour.
Bonjour, mon cher Damien, comment allez-vous?
Vous êtes vous-même une vieille archive, puisque ça fait 30 ans.
J'ai dû en faire une trentaine pour d'autres radios, mais c'était rigolo.
Trentaine de festivals.
J'ai même été tout petit, j'ai vu le premier ou le deuxième. J'étais impressionné, moi, la première fois que j'ai vu le défilé des Bagadou. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je connaissais pas, moi.
Et à vos côtés, donc, Tiffaine Le Goupil.
Ah oui, bah moi aussi, j'ai le poil qui se dresse quand on voit tous ces.
C'était les Écossais qui devaient défiler à l'époque, je crois.
Damien, c'est assez drôle, puisque j'ai cru que vous disiez le fil indivisible.
Oui, moi aussi, j'ai entendu ça, oui. Invisible.
Je trouve que c'est pas mal.
C'est comme la République. Le fil, c'est indivisible.
En précision, le fil est reporté à 2020. Attention, le fil existe toujours, parce que moi j'ai l'impression d'avoir une rubrique nécologique quand j'entends certaines choses.
C'est vrai, c'est vrai. Le festival interceltique n'est pas annulé, il est reporté.
Il est reporté, et puis il va exister encore pas mal d'années. Hein.
De toute façon, l'année 2020 est reportée.
Voilà,
enfin, elle est annulée. Puis ça, elle est annulée.
Nos ancêtres ont connu la guerre, ils ont connu pire.
Coyote, mon cher Coyote, t'as ramené avec toi quelqu'un qui a dirigé ce festival. Est-ce que tu peux nous le présenter?
Ben là, Jean-Pierre Pichard, ancien directeur du festival, mais qui a des multiples casquettes. Hein. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Steph.
On s'est connus dans d'autres vies, on a même travaillé ensemble pour une cassette, je me rappelle, à l'époque c'était de la cassette. Hein,
ouais, c'était fabriquer. Des cassettes, mais dis pas tout. S'il te plaît.
Non, d'accord, on va pas te dire alors. Mais, non, mais c'était fabuleux. C'était
vous
fabuleux.
Allez quand même en dire une partie, rassurez-nous.
Oui, c'est vrai. Mais c'était fabuleux. Alors, on va justement, Jean-Pierre, raconte-nous un petit peu ton histoire. Comment, toi, t'as une vie un peu ancestrale par rapport au festival? Il y a eu d'autres choses avant. Sans parler d'ancêtres, attention.
Oui, il y a eu autre chose. Enfin, pour résumer, j'ai commencé par être sonneur dans un petit bagad à Combourg. Et puis après, je suis allé dans un grand bagad à Rennes. Après, je suis devenu pensionneur de la Caverne de Rennes. Et ensuite, la Caverne de Rennes a gagné le championnat de Bretagne. En parallèle, quand j'étais en terminale, j'ai été nommé responsable musical et technique des Bagadou.
Là, on est dans quel genre d'année?
Alors, quel genre d'année?
Environ.
Oui, environ. On est à la fin des années 60.
D'accord.
On est à la fin des années 60 et donc je me suis retrouvé directeur de la commission technique qui s'occupait de tous les aspects musicaux. On dit pas musique à BAS, on dit technique, j'ai jamais compris pourquoi. Et puis ensuite, je suis venu secrétaire général de BAS. Et bien évidemment, je me suis retrouvé d'abord conseiller avec Pauline Manjarret du festival des Cornemuses de Brest. Et puis d'autres festivals. Et petit à petit, il y a un aimant qui commençait à fonctionner du côté de Lorient. Et donc, je me suis retrouvé à Lorient, d'abord comme sonneur, et puis ensuite, Pierrot Gargadic, qui avait entendu des choses bizarres à mon sujet, comme étant un moderniste notoire, qui voulait tuer les costumes, qui voulait faire des créations, alors que l'avenir de la musique bretonne était derrière elle. Il fallait surtout
c'était
pas regarder.
C'était un peu fermé
devant.
L'époque, hein. C'était un peu fermé, non?
C'était tout à fait fermé. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, on vivait dans l'espèce de recherche d'un paradis perdu qui aurait existé au 19e siècle, quand tout le monde parlait breton, quand tout le monde allait à la messe en breton, quand tout le monde portait le costume, et il fallait revenir à ce paradis perdu. Et on était très très peu, pas beaucoup, parce que Stivell était très traditionnaliste à l'époque, hein, puisque lui était pensionneur de Paris, et moi j'étais pensionneur de Rennes, on s'est bien connus, on s'est bien frités, parce qu'il était traditionnaliste à mort, avant de trouver enfin sa voie. Et donc, le président Gargadic m'a demandé, dit, j'ai entendu tellement de choses sur vous, contradictoires et tout, est-ce qu'on pourrait se rencontrer ? Donc, je l'ai rencontré, et il m'a dit, vous, comment vous voyez l'avenir du festival des Cornemuses de l'Orient ? Donc, je lui ai dit, il faut faire un plan, moi je travaille à 10 ans, donc dans 10 ans, il faudra que le festival soit un festival. D'abord, pas des cornemuses. Cornemuses, c'est complètement restrictif. Puis on joue de la cornemuse partout. Pourquoi pas des clarinettes, je ne sais quoi. Ça ne correspondait pas à l'esprit que j'avais envie de donner au festival. Enfin, à l'époque, je n'avais pas de
pouvoir. Il y avait déjà à Brest, hein, je crois, les clarinettes, tout ça, non ?
Oui, mais enfin... Je dis clarinette comme j'aurais pu dire autre chose. Hein. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, il faut en faire une culture vivante qui ne crée plus, qui ressasse sans cesse ce qui existait avant, risque d'avoir un encéphalogramme plat. Et donc, c'est la création qui va remettre la musique bretonne et la culture bretonne en général du 19e siècle au 20e siècle. Il y a un siècle à boucher, là. Et donc, ça a été le but du festival interceltique, qui s'est d'abord appelé interceltique des cornemuses, car il y avait des gens qui ne voulaient absolument pas lâcher le vocable brestois.
Alors justement, on va faire une petite pause, on va faire un plongeon dans les archives. On est en 1972, voilà, je pense que c'est l'année à laquelle vous approchez du festival, et c'est un résumé du festival des cornemuses à la télé, donc qui s'était tenu, on parle donc du concours de Bagadou, des noces bretonnes, de la lutte bretonne, et c'est vrai que c'est édulcoré au sens vraiment très folklorique du terme.
Durant 6 jours, l'Orient a vécu pour la seconde fois à l'heure interceltique, plus de 2500 participants au festival des Cornemuses, faisant retentir ses rues de la musique des bagadous irlandais, écossais et bretons. Faisant suite à un concert spirituel d'orgue et bombarde, une quadrille monstre réunissait les Celtes de tous horizons au son des lignoux bombardes et bagpipes. Le championnat national des bagadous consacrait ensuite le bagad Saint-Marc de Brest que nous écoutons, champion de Bretagne pour la 3e année consécutive. Était célébrée en l'église Saint-Louis une messe en breton pour le mariage de deux jeunes du cercle briseux de l'Orient.
Voilà, 1972, alors on parle de 2500 personnes qui regardent le concours des bagadous.
Non, qui ne regardent pas, c'était le nombre de musiciens.
Le nombre de musiciens,
Il y avait beaucoup plus de monde que ça, il y avait... sur tout le festival, je crois qu'il y avait 45 000 personnes d'après la version officielle. Mais ça nous remet ce mariage breton, ça nous remet dans l'esprit de l'époque. Ouais. Parce qu'après moi avoir dit, il faut créer une famille artificielle avec les Bretons qui ne sont pas du tout connus, les Écossais, les Irlandais, les Gallois, qui sont connus parce qu'ils jouent au foot et au rugby contre la France. Et donc nous, on va profiter d'eux, ils vont profiter de nous, et on va créer artificiellement une famille. Et tout ce qu'on m'a proposé pour en 72, c'est on va faire un mariage breton dans le défilé et on va mettre une carriole à cheval et on va mettre les mariés dans la carriole à cheval. C'était l'esprit de l'époque. Mais il faut, pour comprendre l'esprit de l'époque, il faut aussi savoir que la musique bretonne, les Bretons n'en voulaient pas. La Bretagne, les Bretons n'en voulaient pas. Il y a eu une crise qui est arrivée, c'est ce que j'appelle le syndrome de Bécassine. Les Bretons étaient des ploucs, les Bretons étaient des arriérés. Ils n'avaient pas de quoi croûter à la maison. Ma grand-mère habitait dans le Morbihan, ils étaient à 15 dans une pièce. Et il y avait 4 enfants par lit clos. C'était la pauvreté totale. Ils bouffaient des oreilles de cochon que le dimanche, après le reste, ils trempaient le pain dans la soupe. La Bretagne, c'était ça. Il n'y avait pas d'électricité dans les fermes. La Bretagne était très en retard et les Bretons avaient honte d'être Bretons. Moi, je l'ai connu. J'ai connu, et donc, c'était toujours ce retour à ce passé mythique où tout était bien. Mais maintenant, les Bretons, ils étaient considérés comme des arriérés, et je l'ai connu après. Moi, je me suis fait traiter de collabo quand j'ai sonné pour la langue bretonne, des choses comme ça, au début des années 60. Et donc, la Bretagne n'avait pas du tout le vent en poupe. Et il y a eu deux choses, à mon sens en tout cas, qui ont fait évoluer la Bretagne et l'ont mis dans le XXe siècle. C'est le Célib. Le Célib, c'est le groupement de toutes les forces vives de la Bretagne, sous la présidence de René Pleven, qui était aussi président du Conseil en France. C'était un personnage, c'était une grande famille bretonne.
C'est à eux qu'on doit notamment toutes les routes
toutes les routes, et puis bon, à De Gaulle, parce qu'il se trouve que un des ancêtres de De Gaulle, qui s'appelait Charles de Gaulle, faisait partie de toute cette équipe au XIXe siècle de Hersart de la Villemarquais, de Logofic, de tous ces gens même Paul Féval, même Jules Verne, qui militaient pour la Bretagne. Hein. Et puis c'est tombé complètement avec le mythe de Bécassine, et c'est reparti à Paris. Parce que contrairement à tout ce qu'on peut raconter, la musique bretonne et la culture bretonne ont démarré à Paris avec le premier cerf celtique en 1917. Et premier cerf celtique qui a été une espèce de conservatoire. Parce que les Bretons, une fois qu'ils étaient à Paris, bon, ils étaient dans le quartier breton entre eux parce que il fallait céder, puis ils étaient un peu paumés. Et donc, ces Bretons, ils se sont dit, mais on n'est pas plus bêtes que les autres, on a une culture, Bécassine, c'est pas nous. Et donc, ils ont fait les premiers cercles celtiques où on apprenait la langue bretonne, où on apprenait l'histoire de Bretagne, on apprenait des choses comme ça. Et ça a débouché sur un mouvement parallèle qui était un artiste de boulevard qui s'appelait Théodore Botrel et qui a lancé la Bretagne, le cidre doux, les coiffes, la pimpolaise, tout un tas de choses. Et pendant très longtemps, la musique bretonne, ça a été d'un côté les cercles celtiques et ça a été la pimpolaise. Et quand je faisais du collectage, je fais beaucoup de collectage, quand j'allais dans des... quand j'arrivais dans une ferme, on m'a dit que vous étiez bon chanteur. Ah oui, bon chanteur. Ouais, bon, allez, on va boire un coup. Alors, on buvait un coup et hop, il chantait du Botrel. Et il ne chantait que du Botrel. Arrivé à 2 grammes, il chantait des cantiques en breton. Et arrivé à 2 grammes 5, il chantait vraiment ce pourquoi j'étais venu. Alors moi, j'étais obligé de vider mon verre sur la terre battue, parce qu'évidemment, j'avais des doses énormes, parce que le mec de la ville, il fallait l'assaisonner un petit peu.
Dur métier d'être collecteur. Hein,
donc, voilà ce qu'était la Bretagne à l'époque, ce côté folklore, toujours ce retour vers le 19e siècle. Et il s'est passé quelque chose d'important en dehors des premiers cercles celtiques à Paris. Il n'y en avait pas en Bretagne à l'époque. Le premier, ça a été... les cercles celtiques ont généré les fêtes folkloriques. La première fête folklorique a été montée par Théodore Botrel à Pont-Aven. Parallèlement, il y a eu les Concarneaux, les fêtes folkloriques. Alors, il y avait le druide, Taldir Jaffrenou, qui était en tête de défilé, avec Théodore Botrel, il y avait des sonneurs en couple, il n'y avait pas de bagadou. Ouais. Et voilà, c'était ça la Bretagne. C'était l'époque où vous vous souvenez de ces meubles bretons avec des petits sonneurs, des bignoux en bois et tout. Eh bien, c'était la Bretagne de cette époque-là.
Il y avait peut-être quand même des duos qui jouaient en fest-noz ou pour le travail.
Il
n'y
avait pas de fest-noz.
Non, alors pour
le fest-noz est reparti dans les années 50 avec Louise Ropars. Et c'était pas dans les mariages, même aux fêtes de Brest, par exemple. Fêtes de Brest dans les années 60, juste avant l'Orient, à la fin des années 60, eh bien, il y avait un bal popu à la fête de Brest. Et à la fin, il y avait un des musiciens qui prenait une bombarde et il jouait très mal, une gigouillette.
Avec 2,3 grammes.
Et voilà, c'est comme ça que la musique s'exprimait à l'époque. Maintenant, c'est terminé.
On a toujours dit qu'on était meilleur en troisième mi-temps.
Voilà quel était l'état de la Bretagne. Et mon idée, donc, a été, à cette époque-là, et avec l'aide de Pierrot Gargadic, hein, moi, j'avais toute la Bretagne qui chante et qui danse contre moi. Alors, j'ai oublié le petit passage. Les sonneurs de la nouvelle génération, c'est pas en Bretagne qu'ils sont nés, c'est à Paris. C'était en 32, la formation de la KAV. Et alors qu'en Bretagne, il y avait quasiment pas de sonneurs, il y avait une douzaine de sonneurs, ils étaient 120 à Paris. Et donc, c'est là qu'ils ont inventé le biniou Neves. Parce que il fallait... Le biniou nouveau. Mais il fallait pas faire comme les Écossais, mais jouer à la même hauteur que la bombarde. Donc, ils ont inventé un biniou qui était tout à fait une cornemuse écossaise, mais avec deux bourdons. Donc, c'était breton. C'était pas écossais, c'était breton. Et après, ces biniou à la même... ont commencé à jouer avec les bombardes et tout. Et c'était pas vraiment une idée, c'était évident. Polygmont Jarret, quand a voulu aller à Paris pour voir comment ça fonctionnait, il a rencontré Dorig Levoyer. Et malheureusement, c'était pendant la guerre. Ils ont fondé BAS en 43.
Qui est devenu Sonorion après ?
Ils étaient quatre. Ils étaient quatre à l'époque. Hein. Ils étaient cinq à la création de BAS. Et puis on arrive au Festival Interceltique qui décide de prendre ce lourd fardeau et de l'amener au XXe siècle.
Au XXIe.
Et au XXIe maintenant.
Oui. Et BAS, parce qu'on va en parler souvent cette semaine, ça veut dire
Boda de Garzonerion. Parce qu'il y avait la KAV à Paris, qui était la confrérie des sonneurs de biniou, mais qui était 120, alors que BAS était 5. Hein. Et donc, une phagocytation. Et donc, c'est devenu BAS. Les premiers bagades, c'était là où il y avait beaucoup de sonneurs, c'est-à-dire au moins une dizaine. Et c'était à Carré, puisqu'il y avait... c'est comme à Auray, à côté. Il y avait un nœud de chemin de fer. Donc... il y avait les cheminots de Carré ont décidé de jouer du biniou de la bombarde. On a pris les batteurs de la clique, mais il fallait surtout pas ressembler à des Écossais. Donc on a mis les tambours devant et pas derrière. Donc c'était une innovation, c'était une invention. Un bagad avec le chef qui était du côté opposé au Pike Major écossais, avec les tambours devant, avec des biniou à deux bourdons Neves, made in Brittany, et hop, ça y est, et les jeunes ont adoré cette nouvelle forme de musique bretonne.
On va se retrouver dans quelques instants pour le fil invisible.
Petite pause musicale.
Et puis on fait une petite pause.
Mila Doiro, c'est vous qui avez choisi ça.
Mila Doiro, hein, c'est ça qu'on prononce bien. Hein.
Tout à fait. Tu sais, bon...
Le fil invisible.
sur Radio Balise
et Radio Broginette.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute du Fil Invisible sur votre radio associative préférée, hein, Radio Balise ou Radio Broginette. En tout cas, on fait ce programme en partenariat. Là, nous sommes dans les studios de Radio Balise. À partir de 13h, ce sera chez Broginette. Nous avons toujours l'immense honneur de recevoir Jean-Pierre Pichard, directeur du festival de 1972 à 2007. Coyote, le morceau qu'on vient d'écouter.
Mediado Hero.
Je crois que c'était
Jean-Pierre connaît mieux que moi. C'est l'un des groupes qui.
C'est le premier groupe de musique dite celtique, parce que on a bien vu que les thèmes étaient des thèmes du 19e siècle européen et à la sauce un petit peu ibérique. Mais il faut expliquer pourquoi. Lorsque en 72, j'ai réussi à faire admettre qu'on invite des Écossais, des Irlandais, des Gallois, ça semblait plus ou moins évident, on les connaissait. Puis après, il y a les Galiciens ont commencé à gratter à la porte. Plus celte que moi, tu meurs. Bon, c'est vrai que le problème, c'est qu'ils ont été à moins 61 avant Jésus-Christ, ils ont été romanisés. Après, il y a les Vandales qui sont arrivés. Après, il y a les Visigoths qui sont arrivés. Et c'est au 19e siècle qu'il y a un chantre, il y a eu la même chose aux Asturies, hein, qui a dit « Nous, on est des Celtes. On est des Celtes et même on est plus Celtes que les Irlandais. C'est nous qui avons peuplé l'Irlande. » C'était une théorie qui existait à l'époque. Et alors des gens disent « Non, ouais, mais ils ne parlent pas de langue celtique. Pas chez nous, pas de ça chez nous. » Et moi, j'ai forcé un petit peu pour qu'on les fasse venir, pour ne pas faire d'ostracisme, absolument. Et il n'y avait pas du tout de folk. Il faut savoir que moi, j'ai joué au premier festival celtique en 63 à Vigo. Et ils avaient invité notre Bagad de Rennes à leur premier festival celtique de Vigo de 63. Ils se sentent celtes et c'est dans la Constitution. Mais la nouvelle Constitution, mais il faut dire qu'à l'époque, c'était Franco. Franco était galicien. Franco était nationaliste espagnol. Et pas question d'avoir quelques cultures régionales que ce soit, comme en France. Ah ouais. C'était exactement la même
côté
chose.
Côté jacobin un peu.
Et donc, tout à fait jacobin. Et donc, pour les Galiciens qui se sentaient seuls depuis le 19e siècle, et on ne va pas revenir sur les détails de l'histoire, et pour les Asturiens les Asturiens qui ont chassé, mais à l'époque, qui ont chassé les musulmans, mais à l'époque, c'était quand même les Visigoths qui régnaient dans les Asturies, c'est très compliqué. En tout cas, au 19e siècle, il y a des théoriciens qui disent, nous, on est tous vachement celtes. Hein, on est encore aussi celtes que les Galiciens, qui sont encore plus celtes que les Irlandais.
Plus celtes que et moi,
hop,
tu meurs.
Et c'est parti. Et c'est comme ça que le premier groupe a été créé pour venir à l'Orient. Il n'y a pas de folk là-bas. Il y avait très peu de musiciens. Et pour venir, je leur avais dit, vous viendrez à l'Orient quand vous aurez assez de gens à savoir jouer correctement chez vous. Et là, ils ont ouvert, à la mort de Franco, ils ont ouvert des écoles partout.
Ça nous ramène dans les années 80, à peu près ?
C'était 75, mort de Franco.
C'est pas bon ? Ah, d'accord.
Et donc,
mais pour la venue au festival, du coup.
À partir de ce moment-là, eh bien, ils ont ouvert des écoles partout. Les Asturiens, pareil, mais les Galiciens ne voulaient pas que les Asturiens viennent parce qu'ils étaient moins celtes qu'eux. Enfin, voilà, c'est très compliqué. En tout cas, tout le monde a ouvert des écoles. Et le premier groupe folk est arrivé, qui était Mediado Hero. Et ensuite, même chose qu'avec les cheminots de carré, ils ont inventé le banda des gaïtas, qui était absolument traditionnel, sauf que personne ne les avait vus avant. Et ça a fait complètement redémarrer la musique, la culture, le sentiment d'appartenance à une famille en Galice et en Asturie.
Que finalement, c'est pas ça le plus important dans cette histoire interceltique, c'est ce sentiment d'appartenance au-delà de ce qui était vraiment le passé, ce qu'on imagine avoir été le passé. C'est à ça que ça sert aujourd'hui, ce concept
Il y a plusieurs visions. Ma vision du festival interceltique, toute l'Europe a été celtique à une certaine époque. Ouais. Bon, certaines régions plus que d'autres. Et puis après, ben, il y a eu les Romains, il y a eu les Germains, il y a eu Clovis, il y a eu les Burgondes, il y a eu les Visigoths, les Ostrogoths, tout un tas de choses.
Parce que c'est un concept ultra antique, en
et,
fait.
Et, ben, les Celtes, c'est un peuple... on n'a pas appris à l'école ce que c'était, mais c'est un peuple indo-européen qui est arrivé dans le premier millénaire avant Jésus-Christ, donc après les mégalithes, après tous ces trucs-là, et qui se sont installés dans la partie centrale de l'Europe, autour de l'Autriche actuelle. Et ils avaient, c'est ce qu'on appelle l'âge du fer, parce que ces Celtes avaient une langue à eux, une langue indo-européenne, donc de la même famille que le latin, le grec et d'autres. Et ils utilisaient le fer alors que les Romains, les Grecs ne savaient pas utiliser le fer. Donc c'était un traceur de l'arrivée de ces gens-là. Et on a trouvé dans les mines de sel à Hallstatt en Autriche des milliers de corps qui étaient enterrés dans les mines de sel qui conservaient bien, avec des armes, des instruments en fer. Et c'est comme ça qu'on a commencé à voir qu'il y a des gens qui amenaient le fer en Europe. Mais évidemment, le fer, c'est moins, le sel, c'est moins bon pour le fer que pour les humains. Et après, on a suivi leur progression en Europe avec tout ce qu'ils laissaient derrière eux. Et donc, il y a des gens qui s'appelaient les Vénètes qui sont arrivés dans le coin, des gens, les Damnètes, qui sont arrivés là, des gens qui s'appelaient les Parisiens, ils sont installés du côté de l'île de la Cité, les Bituriges sont installés à Bourges, et ainsi de suite. Et ces gens-là ont laissé des traces dans toutes les toponymies européennes, et ils ont construit des fortifications, DUN, que vous retrouvez dans Loudun, Châteaudun, Verdun, Édimbourg, London, Dunlaoghaire en Irlande, enfin il y a des centaines et des centaines. Lyon, c'est Lugdunum, la forteresse du lieu Lug, mais on n'a jamais appris ça à l'école. Et non, donc ces Celtes sont arrivés. Ces Celtes sont arrivés, et les Bretons ont eu un coup de peau. C'est que quand les Saxons, qui étaient des Germains, ont envahi la Bretagne, qui était de l'autre côté,
la grande,
les Bretons s'en trouvaient repoussés et ils sont venus s'installer ici en amenant le catholicisme irlandais.
Voilà. Chez nous.
Et donc, on a eu deux tournées. On aime bien les deux tournées plutôt qu'une en Bretagne. deux tournées de Celtes. Alors, on en vient avec nos gens, et pour répondre à votre question. Ouais. Moi, mon idée, c'était de faire en sorte que des gens qui ont des choses en commun, c'est-à-dire un passé
même
dont personne ne veut plus, et puis les jeunes aiment bien ces choses-là, mais qu'ils soient dans n'importe quel pays du monde, pour moi c'était intéressant. Et pendant, on n'aura sans doute pas le temps d'en parler, mais toute l'histoire du festival est émaillée de groupes, des Lituaniens par exemple, c'est eux qui avaient groupe rock, c'est eux qui avaient... Ils ne sont jamais dit qu'ils étaient Celtes, mais ils ont arrêté les chars russes qui voulaient envahir le Parlement de Vilnius. Donc, à l'époque, il y avait quand même beaucoup de radios qui étaient là, et de télévision. Et il y a un copain allemand qui me dit « Il y a un truc qui s'est passé, il faut que tu les invites. » Hop, on les a invités. Hein, tous les gens qui...
Là, c'était presque l'esprit rebelle ou...
C'était l'esprit contre une espèce d'establishment, la force. La force qui domine le plus faible. C'était un peu notre état d'esprit. Et nous, on en a bavé. Et le festival interceltique, pour en revenir à nos oignons, j'ai dit à Pierrot, on lance 10 ans de création. Mais des créations qu'on ne demande pas à n'importe qui, on n'a pas le droit de jouer avec un truc aussi fragile qui n'a pas évolué depuis un siècle. Hein, donc, il faut faire attention. Et donc, la première création, Stivell avait viré sa cutie et il avait découvert, comme
Alan,
tous les
si
Bretons, comme tous... Oh ben, Alan le connaît bien et je le connais bien. Il y a le folk song qui arrivait. Le folk song, c'était du folklore, mais américain. Donc c'était chouette.
Alors que
le folklore, c'était cucu. Hein, et donc le folk song, évidemment, avec des bases irlandaises et écossaises, est arrivé en France. Il y a eu des John Bess dont on parlait, qui a été une des premières invités de l'Orient. Et puis Dylan, qui est pas venu à l'Orient. Et tout d'un coup, il y a les sonneurs bretons, dont Stivell, qui ont commencé à rentrer dans ce mouvement américain. Et donc, la première grande création qu'on ait faite, c'est la symphonie celtique de Stivell. Ça devait être en 78 ou 79, je crois. Et donc, là, ça a été une création. Ça a été la grosse création. Ensuite, on a eu le Brendan Voyage.
Avec
Sean Davy. Je lui ai demandé d'écrire quelque chose qui s'est appelé la suite celtique de l'Orient, et qui est devenu Le Pilgrim, qui a eu un succès,
très beau,
mondial. Et on est parti sur des créations, sur des ouvertures, et le festival a grimpé à partir du moment où on a commencé à faire accrocher nos créations.
Il y a même eu le Bagad à Pâques, hein, je me rappelle.
Justement, on va écouter un petit extrait de la symphonie celtique d'Alan Stivell. Personne n'a sauté au plafond quand on entend
les grandes orgues derrière.
Enfin, c'est là on est dans l'intro.
Ouais.
Après, ça se dynamise.
Mais tout de même, il y avait cette petite couleur.
Non, et puis pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, il se trouve que dans cette symphonie celtique, c'est le mariage de plusieurs musiques. Parce que ça commence, il y a un texte qui est en... Je ne me souviens plus quelle langue qui est dit par Stivell. Après, il y a les chanteuses berbères, les Djoudjouras qui viennent. Il y a des musiques d'un petit peu partout, des percussions de partout. Même une partie de l'orchestration a été faite par un Américain, Chris Howard, un très bon compositeur. Et donc, c'est un mariage. Et le festival interceltique est devenu un mariage créatif entre des gens qui avaient des choses à dire et qui pouvaient être complémentaires.
C'est de ça dont vous êtes le plus fier aujourd'hui, de votre passage
Oui, je crois. C'était mon plan. Moi, j'ai toujours travaillé avec des plans de 10 ans. Et Pierrot Gergadic, dont ce n'était pas du tout la spécialité...
Alors, qui était le président du comité des fêtes.
Hein, président du comité des fêtes, mais il organisait tout... pour qu'il se fasse des choses à l'ordre.
Délégué bien.
Opérationnel.
C'est devenu un très, très grand copain. Il m'a appris plein de trucs.
C'est un bon binôme avec lui. Hein.
Oui, mais vraiment, lui n'était jamais sorti de France. Il était sorti de France qu'une fois pour aller visiter une brasserie. Et je l'ai amené...
c'est un bon...
Je l'ai amené au Japon. Je l'ai amené... Parce que le festival, on en parlera peut-être. Mais ensuite, ça a été un des plans de la deuxième période, la deuxième décennie. Ça a été le festival sur tous les continents. Et donc, jusqu'à mon départ en retraite...
En délégation, je me rappelle. Hein.
Oui, et il y a eu des délégations qui venaient. Et j'ai monté des festivals, le festival interceltique. Parce qu'il se trouvait un truc aux États-Unis, c'est que là-bas, suivant qu'ils étaient catholiques et protestants, ils n'allaient pas dans les mêmes festivals. Donc les Écossais allaient avec les protestants presbytériens, les Irlandais avec les catholiques. Et donc j'ai lancé l'interceltisme là-bas avec le festival interceltique de Chicago. Et donc qui a duré pendant pas mal de temps. Après j'ai fait la même chose à la Nouvelle-Orléans. Hein, ils ont été tout à fait d'accord pour brasser les populations et faire le festival de la Nouvelle-Orléans. Et puis j'en ai fait à Dallas, à Tokyo, un petit peu partout.
Ça existe toujours ces festivals ?
Comment ?
Certains festivals existent toujours ?
À ma connaissance, quand je suis parti, j'étais pas d'accord avec mes présidents qui voulaient faire un truc à l'Orient. Ils voulaient, eux, c'était compliqué, faire un festival à Tokyo, à Geelong, en Australie, tout ça, c'était, tout cela était bien compliqué. C'était l'Orient, nous on est l'Orient, on soutient les Merlus et on est bien l'Orient. Voilà, c'était, et donc... à partir de mon départ effectif, qui était en 2005, le festival a arrêté d'être partout parce qu'on avait énormément de sponsors transporteurs. Hein, on avait des sponsors, puis j'avais monté un groupe Irio, et qui est allé jouer partout dans le monde.
Pour
qui
trouver un CD, hein.
Qui faisait des tournées mondiales à longueur de temps, payées par Guinness, transportées par AOM, par Air France, par Malaysia Airlines, qui étaient nos sponsors de l'époque. On était absolument partout. Hein, on était partout. Et donc, comme il fallait une reconnaissance, là, je brûle peut-être les étapes, mais ouais. Comme l'émission est courte et qu'il y a eu beaucoup de choses à dire.
La mémoire est longue, oui. Hein,
donc, après, la deuxième phase du festival, ça a été d'internationaliser le festival. Partout, il y avait des Écossais, des Irlandais, des Gallois. Les Japonais nous ont dit, mais nous, ça nous intéresse.
Il y avait un baguette japonais, je m'en rappelle,
ouais,
moi.
Et qui est venu, oui. Jouer à l'Orient. Étonnant. Et donc, ils m'ont invité plusieurs années. J'ai représenté l'ambassadeur de France là-bas. Il y avait l'ambassadeur de Grande-Bretagne, l'ambassadeur un peu partout. Et parce que l'ambassadeur de France ne voulait pas représenter la Bretagne. Il dit, moi, je représente la France, je ne représente pas la Bretagne.
Oui,
donc, ils m'ont demandé
idiot.
Si je ne voulais pas représenter la Bretagne. Et donc, le festival était vraiment sur tous les fronts. Hein, et on parlait de nous partout. Et,
c'est un peu ce que nous disaient hier Lizardo et Jean-Peter. C'est-à-dire qu'en fait, l'Orient est connu internationalement pour ce festival et cette... comme étant justement le...
capitale.
La capitale, voilà, de quelque chose. Et je pensais à tout à l'heure, mine de rien, par rapport à l'Amérique, c'est vrai qu'en France, on a cette laïcité qui correspond aussi peut-être avec cette nouvelle celtitude naissante. Et on ne se rend pas compte comme c'est important et qu'il y a beaucoup de pays comme les États-Unis où la laïcité est très, très...
La laïcité
n'existe pas
quand
vraiment.
Vous avez une monnaie mondialement connue qui est toute verte et sur laquelle c'est marqué « In God we trust »,
voilà.
Déjà, ça donne une piste.
Oui,
ça donne une piste et je vous assure qu'il a fallu, argumenter, mais moi j'argumentais avec des films du Festival Intercelté.
Oui.
Ils n'avaient rien qui pouvait approcher aux États-Unis. Il y avait une centaine de festivals celtiques, mais il n'y avait rien. Donc après, à la fin des années 80, gros problème, ça marchait du tonnerre de Dieu, on était connus partout, mais ils étaient vieillissants, encore moins que maintenant.
Mais ça fait peur maintenant, pour certains.
Stivell, ça faisait 20 ans qu'il était sur scène, Serva, 20 ans qu'il était sur scène, et ainsi de suite. Donc, et ça n'intéressait plus grand monde en dehors de la Bretagne. Parce que une mode s'est faite pour se démoder. Il y a eu la mode Stivell, la mode celtique pendant très longtemps. Et 18 ans après Stivell, eh ben, il n'y avait plus, il y avait que le renard, la belette et puis la tribu de Dana pour rigoler de la Bretagne, quoi. Et donc, il n'y avait rien d'autre. Donc, l'idée que j'ai dite à Pierrot et qui a commencé à faire une césure au Festival Interceltique, il faut aller à Paris, parce qu'on est tellement centralisé ici que si Stivell n'avait pas fait l'Olympia, il n'aurait pas été connu. Hein, si, après, Serva a fait l'Olympia, il a été connu, et ainsi de suite. Il faut retourner à Paris et faire connaître la Bretagne. Et donc, le plan... Parce que moi, je n'ai pas arrêté de faire des plans. Hein, et j'en ai même réussi quelques-uns. Et donc, le plan, j'apprends que le ministère du Tourisme s'était rendu compte que la culture au sens large, que ce soit les festivals, les musées, les châteaux, la gastronomie, ça ramenait plus d'argent que le balnéaire ou que d'autres formes touristiques. Donc, ils ont décidé de créer au ministère une abside du ministère du Tourisme qui avait été mis en place par Chirac, un GIE, parce que Chirac avait dit les fonctionnaires ne sont pas capables de travailler à l'international, donc on va faire un GIE avec l'État, 90%, Air France, Trigano, enfin le Club Med, tout ça, et on ouvre au festival. Et bon, ben moi je suis allé là-bas et j'ai réussi à faire entendre qu'il fallait payer une somme dérisoire pour y être, ben, beaucoup moins que Air France ou Trigano. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette affaire-là. Et donc, il y avait une élection, il y avait une élection pour elle prendre la présidence du tourisme culturel. Je me suis présenté, j'ai été élu. Et donc, ça m'a permis de... Et puis après, c'était coupé en deux, une partie sur les châteaux-monuments et une partie sur l'événementiel. Je me suis retrouvé président de France Festival, ce qui m'a permis de... Hein, en 93... comme je commençais à connaître les ministres, à connaître tout le monde à Paris, chose que je ne connaissais pas avant, j'ai lancé la Saint-Patrick de Paris. Pierre m'a dit, je veux bien, mais tu trouves tout l'argent, tu n'auras pas un rond de l'Orient. Moi, je défends les Merlus, je ne défends pas le PSG et le Racing Club. voilà, c'était l'esprit de l'époque. Hein. Et donc, en 93, j'ai créé la Saint-Patrick de Paris. Alors là, j'ai eu tous les bretonnants qui m'ont dit « Pourquoi pas la Saint-Yves ?» Je dis « Parce que ça ne marcherait pas. » Après, on peut faire la Saint-Yves. Mais...
Alors, ça pourrait marcher, justement.
Oui, mais à l'époque, ça n'aurait pas marché. Et donc, la Saint-Yves... Et habituellement, il faut dire qu'on avait une conférence de presse à Paris. Et en moyenne, on avait 20 ou 30 personnes. Il y avait l'Association des Bretons de Paris, il y avait la COP Braise, il y avait tout ça. Il y avait Ouest France, il y avait le Télégramme, il y avait la Liberté du Morbihan.
Exactement.
Et en général, un mec qui s'était perdu et qui était d'un truc national. Et c'est tout, ça marchait pas du tout. Ça n'intéressait personne en dehors des Bretons.
C'est donc, déjà pas mal, mais bon...
C'est déjà pas mal. Et donc, quand j'ai fait la Saint-Patrick en 93, 120 journalistes de la presse nationale sont arrivés. Avec le baguette de l'NBWay, des paillebandes, des trucs comme ça. Et hop, ça a été le redémarrage de l'intérêt pour la Bretagne.
Je vous propose une Andro, mais une Andro revisitée.
Écossaise
Par fleuve.
Ah, fleuve, d'accord.
Voilà, on parlait.
C'est Téléphone Session, ce qui était marqué sur mon connecteur.
On fleuve, parlait. Oui, mais je voulais réagir quand même à ce qu'on entendait tout à l'heure sur cette contemporanéité qu'on peut intégrer dans les musiques actuelles. Fleuve l'a très bien fait. Et c'est un club. Bon, à force de parler des merdes.
Un groupe excellent,
c'est
un trio.
Un groupe excellent et ils sont bretons.
Surtout l'allié gauche.
Surtout l'allié gauche. Voilà, une andro de fleuve sur Radio Balise, dans l'émission, et sur Radio Balise, et sur Radio Brodjunet.
Ils sont même passés au Transmusical de Rennes Fleuve, et dans au Festival Jazz à Vienne. Voilà, ça prouve que le celtisme est parti autre part. Hein.
C'est vraiment le groupe étendard de, on va dire, des musiques actuelles celtiques. Allez, j'ose le terme. On parlait tout à l'heure du lancement de la Saint-Patrick, de la conquête de Paris, du Festival Interceltique.
Oui, oui.
Et puis, il y a un événement, là, on en parlait hors antenne, à la Villette, 600 journalistes.
Oui, en effet.
Et le festival, là, prend une ampleur.
Le festival, ce qui nous manquait, en fin de compte, au niveau du festival, c'était une communication nationale. Hein. Et donc, comme la musique bretonne n'était plus à la mode, il fallait relancer la musique bretonne et relancer une communication nationale pour la Bretagne, pas simplement pour la musique bretonne. On était retombé un petit peu aux oubliettes.
On est en quelle année, là, à peu près ?
Alors là, 93, c'est le premier. La première Saint-Patrick de Paris, ça a grimpé, et là, un point important, c'est 98, le directeur qui est devenu un copain de la Villette me demande, est-ce que tu ferais pas un truc à la Villette ? Et une Saint-Patrick à la Villette, je dis, banco, en plus, il y avait une équipe très pro, très sympa, on est resté très très potes, et ils étaient très proches du Festival Interceltique. Et donc, on a fait 98, 10 000 spectateurs, la grande halle de la Villette, pleine à craquer. Et au niveau des journalistes, 600 accréditations de la presse internationale. On a donné 600 accréditations. À l'époque, mon copain Fabre Darcier du festival la Cité des Papes.
Avignon.
Dit, écoute Jean-Pierre, tu commences à faire suer, on ne parle que de vous, on ne parle plus d'Avignon, qu'est-ce qui se passe ? Et donc ça a tellement grimpé que la Saint-Patrick est passée ensuite au Stade de France, et c'était un autre épisode. Et donc, à cette époque-là, justement, à Vienne, on a parlé de ça tout à l'heure qu'ils étaient passés à Vienne, et bien à Vienne, le directeur qui est du Festival de Vienne, qui était un ancien de Radio France, m'a demandé de monter un festival celtique en plus du Festival de Jazz de Vienne. Donc ça se terminait par un festival. Et puis en plus, comme j'étais logé chez Pic, au lieu de la gastronomie, ça allait très très bien. Hein, donc c'était vraiment, c'était une époque. Le début, l'idée d'aller à Paris était excellente, mais je n'ai pas été suivi parce que à cette époque-là, Pierre Gargadic s'était rapproché des footballeurs lorientais, des anciens responsables des supporters du football lorientais et tout, et ça avait l'air du tonnerre de Dieu, parce que mon but, c'était bien évidemment de communiquer sur la Bretagne, mais aussi de trouver des partenaires nationaux qui nous permettraient d'aller plus loin, parce que tout le monde le sait, le festival s'est fait avec ce qu'on a sous la main, des bouts de ficelle, on n'a rien, on transforme les gymnases, on transporte tout en n'importe quoi, ou pas en n'importe quoi, en quelque chose qu'on essaye de faire adapter.
Trois danseurs, deux sauteurs, et hop,
c'est parti. Et donc, voilà, le festival à ce moment-là, et tout le monde se battait pour le festival. On m'a demandé, l'ambassadeur de France à Oman m'a demandé de m'occuper des 100 ans des relations diplomatiques entre la France et l'Oman. Comme je savais que le sultan aimait la cornemuse et qu'il avait un paille-bande à dos de dromadaire de la police, et donc je suis allé là-bas, j'ai rencontré la police là-bas. Il se trouve que le responsable musical était un Écossais que je connaissais bien. Et à la fin, on a passé une semaine chez tous les ministres, dans tous les palais, et à la fin, il y avait les sonneurs que j'ai du groupe Irio qui étaient avec moi, et ils se sont mis à apprendre de la musique locale, et ils ont joué avec des musiciens locaux de la musique locale à l'ambassade de France. Je vous assure, j'ai rarement vu d'une folie pareille. Tout le monde s'est arrêté de respirer, tout le monde a tapé dans ses mains, il ne voulait plus qu'il s'arrête.
À l'époque, on ne filmait pas.
Après, il y a le ministre de la Culture, qui vient me voir et me dit « Oh, Jean-Pierre, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça dans les ambassades. » Parce qu'ils s'ennuient, alors ils font beaucoup les trucs dans les ambassades. La dernière fois, c'était l'ambassade de Pologne. C'était du piano en or. On s'est fait suer toute la soirée. Là, de la cornemuse, au moins, ça ressemble à quelque chose. Après, c'est l'ambassadeur, le consul général de France à Tokyo, qui m'a demandé de faire une semaine bretonne à Tokyo. Et hop, on a fait le premier fest-noz de Tokyo, avec, dans une boîte de nuit. C'était de la folie, il ne voulait plus s'arrêter. Et après, ça a été ailleurs, et puis ainsi de suite.
Moi, on m'a dit qu'en 2020, ça devait avoir lieu au Puy du Fou, non ? C'est une rumeur.
Bah, écoutez, moi, j'ai travaillé avec les gens du Puy du Fou à l'époque où j'étais président de France Festival. J'ai une très, très bonne relation, même si je ne suis pas d'accord avec certaines choses du Puy du Fou. Mais en tout cas, techniquement, ils sont très costauds. Et à l'époque, ils commençaient à devenir costauds. On s'est très, très bien entendus
ensemble.
C'est
un petit clin d'œil par rapport à...
Alors, ça nous a ramené plein de nouveaux pays celtes, hein, comme par exemple l'Australie, où il y a plein d'Australiens... d'Écossais.
Bien sûr, oui.
Même des Croates aussi, mais bon, c'est pas tout à fait ça.
Oui, la Nouvelle-Zélande, beaucoup d'Écossais aussi.
Et puis l'Acadie,
L'Acadie, c'est une autre histoire. Tout à l'heure, on a dit, et votre question était bonne, c'est pas celte pur et dur, faut pas exagérer, mais il se trouve que...
C'est côté festif, hein.
J'avais organisé le trophée Macallan de Cornemuse, et pour faire admettre la musique bretonne dans le monde de la cornemuse. Et on a commencé des éliminatoires au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et ainsi de suite. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré les Québécois. Donc, ils m'ont invité plusieurs fois. Ils avaient organisé quelque chose qu'ils appellent la Francofête, qui est une présentation de la jeune scène qui n'était pas... c'était avant Rock Voisine, c'était tout jeune. Et là, j'ai repéré une fille, Dominique Dupuis,
super
qui avait 14 ans. Elle avait 14 ans et j'ai suivi son programme. Et il m'a dit, ah, pour le 400e anniversaire de l'Acadie, on a écrit au président Chirac et on va faire un grand truc acadien en France, tout un tas de trucs. J'y croyais moyennement, j'ai fait mon enquête, en fin de compte c'était l'année de la Chine, et les Acadiens, il n'y avait rien de prévu.
Ils avaient été oubliés, hein, c'est vrai.
Ils avaient été complètement oubliés, à part un petit truc du côté de la maison de Champlain, du côté de la Tremblade, enfin une petite ville fortifiée où il y avait je me souviens plus, je vais me faire assassiner par les Charentais, je me souviens plus du nom de la ville fortifiée. Et je leur ai dit, écoutez, je vous propose un truc, je vous fous au Stade de France. Et comme j'avais fait, c'était le quatrième Stade de France que j'organisais, et donc c'est moi qui faisais le programme, je m'occupais de tout, hein, dans ce truc-là, la direction de tous les trucs. Et donc j'ai mis Dominique Dupuis, qui avait 17 ans à l'époque, et tout le monde avait la trouille, enfin tous les mecs connus qui étaient là. J'avais demandé au Mouvrini aussi de venir pour lancer un petit peu la Corse. J'invitais, les Trianes étaient là, ils avaient fait venir Angoun qui venait de Malaisie. C'était très ouvert. Et là, tout le monde avait la trouille dans sa loge et tout. Et je vais voir Dominique Dupuis. Jean-Pierre, je voudrais répéter les morceaux, tu me dis ce qu'il faut que je joue. Oh, j'ai hâte. Alors que tout le monde avait la trouille, elle avait hâte. Et quand elle est arrivée sur scène, j'avais fait construire un écran depuis le début de 70 mètres de large et 30 mètres de haut. Et là, on a eu un drapeau acadien sur toute la largeur, 400e anniversaire de l'Acadie. Et à la fin, un bœuf, standing ovation, et voilà. L'année de l'Acadie a été mise sur les rails.
Et c'était en 2004, hein, c'est ça, hein?
2004, oui.
Voilà, il y a eu une deuxième année en 2012. Et il y en aura peut-être une prochainement.
Ah oui, 2004, c'était la première à cause du 400e anniversaire.
Et en attendant, ils ont toujours un magnifique pavillon où il faut aller, plein de bonnes découvertes.
C'est là où on fait la fête, parce que c'est aussi un endroit de fête. Il faudrait que vous reveniez, en fait, pour qu'on parle.
Moi, je voudrais juste avec Jean-Pierre Pichard, dans notre invité, je voudrais qu'on parle un petit peu l'avenir du festival, parce que attention, il y a nos amis Stivell, Servail, Trianes, ils s'arrêtent bientôt, ils prennent de l'âge. C'est quoi l'avenir ?
Écoute, je ne sais pas, parce que j'ai pas énormément, même pas du tout, de relation avec le festival interceltique. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Et moi, j'ai toujours vécu, et j'ai toujours eu des équipes qui seraient jetées au feu, qui y croyaient, qui... Maintenant, bon, c'est un petit peu...
C'est une grosse machine bien lancée maintenant.
C'est une grosse machine avec un chef, un DRH, avec des tas de trucs. Enfin, c'est pas du tout l'esprit conquérant. Et moi, je travaillais toujours 10 ans à l'avance. Et donc, pendant ces 10 ans-là, je travaillais aux 10 ans suivants. Donc, j'avais un plan bien déterminé. Dans 10 ans, il faut que je sois là. Je ne suis pas certain que la façon de travailler soit la même. Je n'en sais rien. Il faudrait le demander à Lissardo, puisqu'il est venu hier, il a dû vous expliquer ça. Mais je pense que la seule solution, c'est de faire une pause hors antenne, enfin hors festival, pour dire voilà, qu'est-ce qu'on fait dans les 10 ans, quel est notre objectif. Parce que on ne relance pas un festival qui était connu sur tous les continents, qui était sur toutes les radios. À Europe 1, ils disaient, on va faire la pichardisation encore cette année. La pichardisation, c'est-à-dire que je faisais 3 émissions par jour sur Europe 1 et sur toutes les autres radios, pareil. Hein. Et les télés, ça n'arrêtait pas. Je faisais jusqu'à 30 émissions
par jour.
C'est
des archives.
Hein. Je faisais jusqu'à 30 émissions par jour à l'époque du festival. Bon, c'est plus tout à fait le cas. Et donc, se dire, maintenant, où on veut aller et quels sont les moyens qu'on se donne et quelles sont les échéances. Je crois que c'est la seule solution pour continuer et ne pas attendre que l'Estivelle, qui est même un an de plus vieux que moi, que Gilles Servat, qui a le même âge que moi, que Pitchoun, qui a le même âge que moi, soit en retraite, pour se dire « Ah, c'est quoi l'avenir du festival ?» Il faut y penser maintenant.
On va être obligé de pichardiser Radio Balise aussi à un moment.
Dépichardiser plutôt.
Dépichardiser Radio Balise.
Dépichardiser faudra... tout de suite, mais repichardiser.
On te réinvitera.
Il faudra revenir, je pense, dans cette armorique, ce sera un très bel endroit pour.
Et y a, on peut dire aussi que Jean-Pierre a fait d'excellents livres sur le whisky. Moi, j'ai appris à goûter le whisky.
Hein. Et moi, je pense qu'il y a une émission à faire autour du whisky. Voilà. Je voulais finir avec une toute petite chose. Lorient aussi était une source d'inspiration pour pas mal de musiciens. Il y a quelqu'un qui s'appelle Gordon Duncan qui a écrit sur Lorient ce qu'on va écouter là derrière nous, qui a été réinterprété par 2 de ses anciens élèves. Ça s'appelle Lorient Mornings. À découvrir, mais Lorient est devenu un lieu hymne aussi, un territoire hymne pour pas mal de...
Ah, tout à fait, c'est devenu la Mecque. Parce que ce qu'on ne sait pas toujours, mais moi j'ai pas touché dedans depuis que j'étais tout petit, c'est qu'à l'époque où le festival interceltique débutait, la musique en Écosse, pie band,
ouais,
des Kelly band, des country dances. Il faut dire que les country dances, c'est les menuets qui avaient été repris à la cour d'Écosse pour revenir en France sous Napoléon III, sous le nom de contredanse, le quadrille des lanciers, les polkas et tous ces trucs-là. Et donc, en dehors de ça, il n'y avait rien que des chanteurs. Les Corries, qui étaient les chanteurs emblématiques de l'Écosse à ce moment-là, et qui ont écrit Flower of Scotland, qui est devenu l'hymne du rugby. C'est pas devenu l'hymne de l'Écosse, mais il y en a un autre. Mais l'hymne du rugby était de cette époque-là. En Irlande, à la même époque, il n'y avait pas de musiciens. Vous pouvez toujours aller dans un pub et attendre qu'il y ait un mec qui joue de la... Il n'y avait aucun musicien. Moi qui connaissais tout le monde, il me disait « Ah ouais, reviens à telle date, dans tel lieu, dans tel village, il y a un truc. » Mais il n'y avait rien. Et l'Irlande a été réinventée plus tard, après le festival interceltique. Il n'y avait qu'un groupe en Irlande, mais qui était un groupe qui avait été pris pour faire un film. Il y avait un musicologue, Sean O'Riordan, qui a décidé de créer un groupe avec Paddy Moloney, avec d'autres, pour faire la musique d'un film et qui s'appelait Miserere, qui a eu un très grand succès aux États-Unis et en Australie. Mais les seuls artistes à l'époque qu'il y avait en Irlande, c'était les Dubliners, qui chantaient des chansons à boire et des chansons nationalistes, et les Wallstones, qui chantaient des chansons nationalistes et qui buvaient aussi. Hein? Donc, il n'y avait pas de musique en Irlande. Et tout est reparti derrière l'Orient à faire des groupes de folk,
Là, il y en a plus maintenant.
Hein. Mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et c'est l'Orient qui a redynamisé tous ces pays-là. Donc, on s'est nourri un peu chez eux, avec les paille-bandes, avec des trucs comme ça. Et puis, on leur a redonné de nouvelles idées pour l'avenir. Et tout ça, c'est parti aux États-Unis. Après, c'est parti partout. Mais au début, c'était l'Orient.
Malheureusement, c'est la fin de notre première partie. Merci beaucoup, Jean-Pierre Pichard.
Grand merci, hein,
Jean-Pierre. Ancien directeur donc, du Festival Interceltique. Vous étiez à l'écoute de cette première partie du Fil Invisible, consacrée donc au Festival Interceltique entre mémoire, archives et pépites sonores. Mon cher Coyote, à demain.
N'oublions pas que l'émission est écoutable en podcast.
L'émission est écoutable.
Sur radioboilise.com et sur le site de Radio Broadvenet.
Exactement. Celle-ci sera tout de suite mise en podcast dès 14h. Nous, on donne l'antenne à Radio Broadvenet.
On
se retrouve demain sur Radio Broadvenet tout de suite. On fêtera les 20 ans de Soldat Louis qui avait eu lieu en 2008. Ils reviennent sur cet événement-là.
Voilà.
Ils inviteront aussi Jean-Michel Le Boulanger, vice-président en charge de la culture à la région Bretagne. Et puis ils reviendront aussi sur l'histoire des Chieftains.
Paddy Maloney.
Ben voilà, on va en savoir
super
un peu.
Super personnage.
Voilà. Stéphane, à demain.
À demain.
Coyote, à demain.
À tout à l'heure, même.
Avec Charles Kentatro,
et puis de 19h à 20h.
Et pour bon courage à Jean-Pierre pour la suite.
Bon courage pour la suite, Jean-Pierre. On espère vous retrouver sur notre antenne.
Le fil invisible.
Sur Radio Balise
et Radio Broginette.
C'était la rediffusion de l'émission Le Fil Invisible du 11 août 2020. Radio Balise, Radio Broginette et Celta Armorique, avec la collaboration du collectif Celtic Radio Média, rendaient hommage à Jean-Pierre Pichard, ancien directeur du Festival Interceltique de l'Orient, qui nous a quittés le 13 août 2021, un personnage éternel qui nous manque déjà. On peut associer à sa mémoire Pierrot Guergadic, entre autres son pote, président historique du Fil, qu'il vient de rejoindre au paradis des Interceltes. Une grande pensée à toute sa famille, à ses proches et à toute la famille du festival.